Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes, en partenariat avec BFM. Quid Juris, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé avec Elsa France. Vous écoutez le 98e épisode de Quid Juris. La justice des mineurs est au cœur du débat public. Elle est même devenue, à la faveur d'une succession de faits divers dramatiques, un enjeu politique. Faut-il revenir ou non sur l'excuse de minorité ? Faut-il encore réformer l'ordonnance de 1945 ? Et d'ailleurs, le mineur de 2026 ressemble-t-il au mineur de 1945 ? Faut-il, au regard de la gravité de certains crimes, réformer la Constitution, quitte d'ailleurs à ne plus respecter les engagements internationaux de la France ? Des questions qui seront tranchées ou pas, à la faveur de la prochaine campagne présidentielle. Mais il est un sujet dont on parle peu, trop peu, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Bonjour Thomas Le Sueur.
Bonjour.
Vous êtes justement le directeur de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Vous avez pris vos fonctions le 25 août dernier. Vous étiez précédemment directeur adjoint du cabinet du garde des Sceaux et vous êtes par ailleurs conseiller maître à la Cour des comptes. Alors c'est vrai que votre parole est rare et au moment où le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, vient d'adresser au procureur et au directeur de la PJJ ce qu'on appelle une circulaire de politique pénale et éducative relative justement à la justice des mineurs, ben on a besoin de vous pour faire la pédagogie d'un service public que les Français connaissent mal, voire pas du tout. Alors d'abord, je voudrais qu'on commence par un mot sur votre feuille de route personnelle. Quand Gérald Darmanin vous a nommé pour succéder à Caroline Nizan à la tête de la PJJ, il a adressé une lettre aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse et il a fixé, vos missions. La protection de la jeunesse face à la criminalité organisée, le renforcement de l'éducation et de la réponse à la délinquance juvénile, la refondation de la protection de l'enfance placée sous main de justice. On est très précisément 6 mois plus tard. Est-ce que cette feuille de route est toujours la même ou est-ce qu'elle a changé ?
Absolument, c'est toujours la même. Elle a même d'ailleurs été réaffirmée très récemment dans cette circulaire de politique pénale et éducative qui porte plus particulièrement sur la création d'unités judiciaires à priorité éducative. Donc c'est le volet de renforcement de l'action éducative face à l'enfance délinquante, qui est la mission principale de la PJJ. Il y a aussi le volet protection de l'enfance, qui est un axe majeur, vous l'avez cité. Ce travail se fait sur l'élaboration d'un projet de loi conjointement porté entre le garde des Sceaux et sa collègue Madame Rist, en charge de la famille. Donc, projet de loi qui est au travail en concertation et qui porte sur différents aspects, peut-être qu'on y reviendra. Mais en tout cas, ces deux aspects-là, ces deux volets-là, ils sont très fortement portés actuellement. Et puis, il y a le volet lutte contre le narcotrafic qui fera l'objet d'annonce un peu plus tard. Je reviendrai vous en parler si vous le souhaitez.
Alors, vous le disiez, on va parler de tout ce qu'il y a dans cette fameuse circulaire que j'évoquais. Mais d'abord, je voudrais profiter de votre présence pour qu'on fasse la pédagogie de ce service public. Vous le disiez, la PJJ, elle est chargée de l'organisation de la justice des mineurs. Elle a pour objectif à la fois l'insertion, l'éducation des mineurs qui sont suivis par la justice, mais aussi ce qu'on appelle la protection des mineurs en danger. Si je cite ces deux missions-là, ça recouvre très précisément ce que vous faites ou il y a d'autres missions ?
Non, c'est vraiment ça le cœur de la mission. La PJJ, c'est l'acronyme, Protection judiciaire de la jeunesse, elle est en charge des mineurs qui sont sous main de justice, c'est-à-dire qu'il y a toujours un juge qui intervient en amont, un juge des enfants, pour prononcer une décision sur un mineur. Cette décision, si elle est au civil, elle va conduire à des actions confiées au département, puisque c'est le chef de file en matière d'aide sociale à l'enfance. Mais ça fait quand même partie des missions de la PJJ de suivre de plus loin ces mineurs-là. Et puis, nous faisons des mesures dites d'investigation sur ces mineurs, c'est-à-dire qu'on va faire une enquête sociale, au fond, sur ces mineurs au civil. Ça, c'est les mineurs qu'il s'agit de protéger parce qu'ils sont dans un environnement familial qui les met en danger. Et puis, il y a le volet pénal. Là, c'est le cœur de la mission de la PJJ parce que nous sommes en charge de
ce qu'on appelle médiatiquement les mineurs délinquants.
Absolument.
Ceux qui ont commis une faute.
Exactement. Donc eux, ils passent aussi entre les mains de la justice. Ils font l'objet de sanctions décidées par le juge. Et la mise en œuvre de ces sanctions est confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. Alors ce sont quand même souvent les mêmes enfants. C'est-à-dire que pour nous, tous les enfants, qu'ils soient au civil ou au pénal, ce sont des enfants qu'il faut protéger, qui sont en danger, qui se mettent parfois en danger, qui mettent parfois en danger les autres. Et c'est souvent des enfants qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance qu'on retrouve dans les...
Justement, je profite de ce que vous dites parce que beaucoup de gens confondent un peu les deux. L'aide sociale à l'enfance d'un côté, la protection judiciaire de la jeunesse. En fait, l'aide sociale à l'enfance est un des aspects de votre travail.
Pour être très précis, dans l'aide sociale à l'enfance, vous avez environ 400 000 enfants qui sont concernés. 80% des décisions concernant ces enfants sont prises par la justice et donc entrent dans le périmètre au sens large de la protection judiciaire de la jeunesse, même si ce sont les départements qui mettent en œuvre les décisions. Et puis il y a 20% qui sont dans un cadre plus administratif par des décisions des conseils départementaux. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais quand on vous parle de protection de l'enfance, le plus souvent c'est une décision judiciaire et qui est mise en œuvre par les départements. Et quand on vous parle de la PJJ, souvent on vous parle d'abord de l'enfance délinquante et de la prise en charge de ces mineurs qui ont été sanctionnés par le juge suite à des faits de délinquance ou de criminalité.
Alors, pour les suivre, il y a un peu plus de 9000 professionnels de la protection judiciaire. Il y a près de 230 structures du secteur public, 960 structures du secteur associatif, parce que les associations entrent aussi dans ce cadre-là. Et il y a, j'ai vu, 139 000 mineurs qui sont suivis par la PJJ. Ils sont suivis de quelle manière? Comment ils se répartissent, ces 139 000 mineurs?
Alors, merci de me donner l'occasion de le préciser. Donc, 139 000 mineurs, vous en avez environ 40% qui sont suivis au civil, et ce sont des mesures que j'évoquais précédemment d'investigation éducative. Donc ça, ce sont des mineurs que le juge estime en danger, et on envoie la PJJ pour faire une enquête sur la famille, une enquête sociale, pour voir dans quelles conditions l'enfant vit, et pour éclairer la décision du juge qui, ultérieurement, pourra décider de le placer ou de peut-être prévoir des mesures d'assistance éducative pour épauler le jeune et sa famille.
Assister les magistrats dans leur aide à la décision, ça fait partie de votre travail.
C'est une expertise et c'est un regard professionnel, d'ailleurs de plusieurs professionnels, parce qu'une investigation éducative, c'est un éducateur, c'est une assistante de service social, et puis c'est un psychologue qui interviennent sur le même, qui croisent leur regard sur un enfant et sa famille. Et ça permet d'éclairer le juge dans sa fonction civile de protection de l'enfance.
Ça, c'est environ 40%.
Voilà, environ donc 60 000 jeunes. Si je prends les 139 000, ça fait 60 000 à peu près.
Et les autres?
Et donc les autres, c'est environ 80 000, j'arrondis si vous me le permettez. Eux, c'est l'enfance délinquante. Ce sont des mineurs qui nous sont confiés par le juge parce qu'ils ont commis des actes de délinquance, parfois des actes de criminalité. Et leur devenir, c'est pour l'essentiel ce qu'on appelle le suivi en milieu ouvert. Ça, c'est la mission de la PJJ, c'est-à-dire que ces enfants font l'objet d'une sanction, souvent des mesures éducatives prescrites par le juge, et qu'ils doivent mettre en œuvre sous le contrôle, sous le suivi d'éducateurs de la PJJ. Donc concrètement, ces enfants restent dans leur cadre familial, ils sont toujours à leur domicile, mais ils ont des rendez-vous réguliers avec des éducateurs de la PJJ, et puis ils ont des obligations, parfois un contrôle judiciaire, parfois des obligations de pointage, parfois des obligations de couvre-feu, et tout ça est suivi par les agents de la PJJ. Ça, c'est la grande masse des 80 000. Mais ça ne fait pas le tout, puisque vous avez cité, si je puis poursuivre, la question de l'hébergement, les places dans les foyers de la PJJ ou les centres éducatifs fermés, où là, vous avez chaque année autour de 5 000 mineurs qui vont passer entre nos mains pour être hébergés, c'est-à-dire qu'on les prend en charge H24 pendant une période de quelques semaines à plusieurs mois, pour les éloigner de leurs mauvaises influences, pour leur donner un cadre éducatif contenant. Ils ne sont pas complètement libres, même si ce ne sont pas forcément des lieux de privation de liberté. Et là, on les accompagne pour leur trouver une voie de réinsertion sociale et les aider à trouver leur place dans la société.
Et il y en a une infime minorité, moins de 1%, 800, un peu plus de 800, je crois, qui eux sont en prison. Ce qui d'ailleurs est assez contre-intuitif, parce qu'il y a beaucoup de débats sur l'excuse de minorité, mais quand les faits sont très très graves, des mineurs peuvent aller en prison, dans des prisons dédiées, mais il y en a quand même 800 qui sont derrière les barreaux pour le coup.
Exactement, à l'instant où on se parle, il y a effectivement 800 mineurs qui sont détenus. Quand ils sont détenus, ils ne sont pas pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, mais par l'administration pénitentiaire, mais nous avons des éducateurs qui viennent en détention pour porter un regard et une action éducative auprès de ces mineurs. C'est pas parce qu'ils sont en détention qu'on ne cherche pas à les réinsérer, à réaliser nos missions. Mais ils sont un peu à part pour nous.
Ils sont pris en charge par la pénitentiaire,
absolument.
Et on entend souvent dans le débat public, et je l'ai dit en introduction, on entend souvent dire « Ah bah oui, mais vous savez, le mineur de 2026, il ressemble pas à celui de 1945 quand on a pris cette fameuse ordonnance. » Est-ce qu'il y a un profil type de ces mineurs délinquants? Est-ce qu'il y a des invariants structurels, quelque chose qui pourrait nous indiquer des pistes peut-être d'ailleurs pour leur réinsertion?
Alors peut-être une réponse en deux temps. Un, est-ce qu'ils ont changé? Non, l'enfance reste l'enfance, l'adolescence reste l'adolescence. Il y a beaucoup d'invariants dans ces mineurs. Ils sont influençables, ils sont exposés à beaucoup de dangers et ils peuvent être inconséquents au sens où ils n'ont pas vraiment conscience de la gravité de ce qu'ils font.
Enfin, c'est important ce que vous dites. Vous êtes en train de suggérer que même lorsqu'ils sont délinquants, ils sont souvent, voire presque tout le temps, en même temps victimes?
Ah, c'est très souvent le cas, absolument, absolument. Déjà, les deux tiers, et peut-être je passe à la partie de la réponse qui est sur votre question, sur leur profil, les deux tiers environ des mineurs délinquants sont passés par l'aide sociale à l'enfance, ce qui montre bien qu'ils ont des parcours cabossés, des ruptures, des difficultés de vie ne leur ont pas donné les mêmes chances, le même cadre, les mêmes liens affectifs, éducatifs que d'autres enfants moins défavorisés. Or, cette question du lien, elle est essentielle parce que, justement, les êtres humains, les enfants, et ça c'est un invariant, ont besoin de créer des liens et parfois ils vont trouver des liens dans des cadres qui sont tout à fait inadaptés. Et c'est comme ça qu'ils se font enrôler et exploiter, et c'est en ça qu'ils sont victimes, par les réseaux de traite des êtres humains, les réseaux de criminalité organisée, la prostitution et toutes ces...
On va en parler parce que ce que vous dites est contenu dans cette fameuse circulaire, parce que je le disais, Gérald Darmanin vient donc d'adresser une circulaire au procureur et au directeur de la PJJ, une circulaire pénale et éducative relative à la justice des mineurs. Alors le garde des Sceaux détaille ce qu'il attend de la prise en charge pénale et éducative de ces mineurs délinquants. S'il fallait résumer la philosophie de cette circulaire, vous diriez quoi?
Je dirais qu'il s'agit de prendre en compte l'évolution des menaces qui pèsent sur ces enfants, et notamment le développement de la criminalité organisée, tout particulièrement du narcotrafic, et d'apporter une réponse plus éducative encore et plus de prise en charge de santé de ces enfants. D'où la création de ces unités judiciaires à priorité éducative qui sont annoncées et mises en place par cette circulaire et qui prendront effet le 1er septembre prochain.
On va y venir, mais au début de cette circulaire, Gérald Darmanin dit que l'entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs en 2021 a déjà permis de diviser par deux les délais de jugement des mineurs. C'était 17 mois, presque 18 ans en 2020. C'est un peu moins de 9 mois en 2024. J'imagine que c'est lié en partie au principe de la césure, hein, l'audience de culpabilité, l'audience pour définir la peine. Mais celui qui regarde ça de loin se dit, mais 9 mois, mais c'est encore extrêmement long pour donner une peine à un enfant mineur qui a commis une faute. 9 mois, c'est long.
Une réponse un tout petit peu élaborée, pardonnez-moi, mais il faut bien voir que déjà une réforme qui permet une telle diminution, quasiment par deux des délais, ça n'a pas toujours été le cas au ministère de la Justice. Il y a des réformes qui n'ont
pas
produit.
C'est la fameuse réforme Nicole Belloubet.
C'est la réforme du Code de la justice pénale des mineurs qui garde les principes de l'ordonnance de 45, mais qui effectivement introduit en particulier cette césure et qui visait à réduire les délais. Pourquoi réduire les délais? Parce que le temps à cet âge-là, et c'est un peu le sens aussi de votre question, à cet âge-là, le temps passe vite et 9 mois d'un enfant de 16 ans, c'est pas la même chose que d'un adulte de 45 ans. Donc, aller plus vite était important. Pour autant, les principes de l'ordonnance de 45 et du Code de la justice pénale des mineurs, c'est la primauté de l'éducatif. Et par conséquent, cette césure, elle permet d'abord de régler la question de la culpabilité qui traînait pendant des mois et qui laissait une difficulté à l'éducateur puisque l'individu, le jeune, était encore présumé innocent et les faits n'étaient pas toujours établis. Maintenant, l'audience de culpabilité fait que cette question est réglée. S'il est là, c'est qu'il est reconnu coupable et on peut passer à la suite, c'est-à-dire à l'action éducative.
Et que se passe-t-il dans ce délai? Parce que c'est peut-être ça que le grand public ne sait pas. Ce que le grand public voit, c'est que la peine, elle met 9 mois à arriver. Sauf qu'entre l'audience de culpabilité et l'audience de fixation de la peine, le jeune n'est pas laissé dans la nature. On s'occupe de lui, logiquement.
Pas du tout. En réalité, dès la commission des faits, dès la garde à vue, et encore plus après l'audience de culpabilité, il y a des mesures éducatives judiciaires provisoires qui sont prises. Et donc, il y a une action de la PJJ qui intervient et qui permet d'observer l'évolution du jeune. Et d'où l'intérêt de ce temps de césure. Et il ne faut pas qu'il soit trop court, parce qu'il faut quand même laisser du temps à l'action éducative de produire ses effets, à la confiance entre l'éducateur et le jeune de pouvoir s'établir et prospérer, pour que l'éducateur, au moment de l'audience de sanction, celle qui prononce la peine éventuelle et les mesures définitives, eh bien l'éducateur puisse dire « j'ai eu un temps d'observation et le jeune repart dans le droit chemin » ou au contraire, il a réitéré, il est sensible aux mesures qui sont mises en œuvre ou au contraire, il ne vient pas au rendez-vous. Alors, vous voyez, on a des indices qui sont très forts. Donc, il faut quand même laisser un petit peu de temps pour que cette action éducative, elle puisse produire de premiers effets, donner une tendance et éclairer le juge pour savoir s'il doit mettre une sanction élevée ou au contraire plus faible parce que le jeune a bien évolué.
Alors, il y a les délais, on vient d'en parler, et puis il y a surtout, et c'est peut-être encore plus important, l'effectivité de la peine. Et d'ailleurs, le ministre, dans cette circulaire, dit que c'est la condition même d'une justice crédible pour les mineurs. Comment on fait pour trouver le juste équilibre entre, justement parce qu'on s'occupe de mineurs et pas de majeurs, donc ce juste équilibre entre fermeté et accompagnement, sévérité et éducation?
C'est d'abord le rôle du juge dans l'appréciation de la situation, mais cette appréciation, elle est éclairée par le regard et le rapport de l'éducateur qui intervient à l'audience. Le principe presque fondateur et philosophique de l'ordonnance de 45 et du Code de la justice pénale des mineurs, c'est d'avoir confiance dans le fait que le jeune n'est pas né délinquant et qu'il peut sortir de cette délinquance. On parle de désistance. Et c'est là qu'est l'équilibre entre la fermeté qui porte tout simplement sur le fait qu'il y a des actes graves qui ont été commis, sinon on ne le retrouve pas au pénal, et il y a des victimes auxquelles il faut penser, auxquelles il faut faire penser le jeune en question, mais il doit aussi trouver une place, et donc l'action éducative, elle vise à le protéger, parce qu'il se met en danger en ayant, par exemple, des liens avec des réseaux de criminalité organisée, elle vise à l'insérer, et à le former, donc action éducative, action de formation, action de projection dans l'avenir. L'équilibre, il est intrinsèque et il ne faut pas opposer l'un et l'autre. La sanction vise à rappeler qu'il y a un cadre et l'éducation vise à permettre aux jeunes, dans le cadre ainsi donné, de se projeter vers l'avenir quand le lien éducatif, j'y insiste, réussit à se former et ça prend du temps.
Alors, c'est très intéressant parce que vous avez commencé à l'évoquer. Gérald Darmanin avait présenté en novembre dernier, si ma mémoire est bonne, une nouvelle orientation reposant justement sur le recentrage sur l'éducatif, la scolarité, la santé mentale, la lutte contre les addictions. Et à cette occasion-là, il a annoncé que les centres éducatifs fermés, c'était terminé, qu'on allait, vous l'avez dit, les transformer en unités judiciaires à priorité éducative. Alors, ça a l'air un peu technocrate et administratif, comme terme, mais l'idée, c'était de garantir une meilleure exécution des décisions de justice. En quoi ça va être différent? Et d'ailleurs, une question toute simple, c'est ces nouvelles unités, elles seront fermées comme les centres d'avant ou pas fermées? On est en milieu ouvert ou en milieu fermé?
Alors, on est en hébergement. C'est-à-dire que c'est des endroits où, effectivement, les enfants, les jeunes vont être placés pour être H24 dans ces bâtiments et ne pas rentrer chez eux. Donc, on n'est pas en milieu ouvert, ça c'est certain. Mais pour nous, le milieu fermé, c'est plutôt la prison. Là, c'est sous clé.
On disait centre éducatif fermé. Ça voulait dire ce que ça voulait dire.
En effet, le centre éducatif fermé a été créé il y a 25 ans et le ministre a estimé qu'il n'avait pas donné complètement satisfaction, notamment sur deux aspects. D'une part, les populations qui sont présentes dans ces centres éducatifs fermés sont absolument les mêmes que dans nos foyers. Quand je dis les populations, c'est-à-dire qu'au regard de la gravité des faits, de la réitération ou de la récidive des faits, on a les mêmes profils de mineurs. Alors qu'il y avait l'idée que le centre éducatif fermé intervenait dans une gradation de sanctions et de gravité des faits.
En gros, c'était la dernière étape avant la prison.
C'est souvent comme ça qu'on le présentait. Et c'était vrai pour des raisons juridiques, puisque dans un centre éducatif fermé, si un mineur était placé, il était toujours placé sous contrôle judiciaire dans ce centre. S'il en sortait, s'il ne respectait pas son contrôle judiciaire, la sanction de la révocation, c'était la mise en détention. Donc, c'est ce qui éclaire cette idée que c'était la dernière case avant la prison. Dans nos unités judiciaires à priorité éducative, eh bien, c'est, il y aura toujours, quand le juge en décidera ainsi, des contrôles judiciaires. Et c'est le contrôle judiciaire, dans l'individualisation de la décision de justice, qui précisera le statut du mineur. Et donc, s'il est assigné à rester dans l'établissement ou s'il peut en sortir et à quels horaires dans la journée.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je vous écoute attentivement, mais comme c'est Gérald Darmanin qui a rédigé cette circulaire, j'ai envie de dire, il y a presque deux Gérald Darmanin, il y a deux gardes des Sceaux. Il y a celui qui parle dans cette circulaire et qui donne, si je vous entends bien, la primauté à l'éducatif, alors que dans le débat public, on a l'impression que on veut toujours plus de fermeté pour les mineurs. J'entends même un certain nombre de responsables politiques parler de centres fermés avec un encadrement militaire. Donc, on veut toujours plus de sévérité. Et là, tout à coup, cette circulaire, elle semble dire le contraire. Elle semble dire que d'abord, on est avec des mineurs et c'est l'éducation le plus important. Donc, le garde des Sceaux, il est un peu schizophrène parfois.
Alors, le garde des Sceaux que je connais, le Gérald Darmanin que je connais, il dit et il redit dans cette circulaire qu'il ne faut pas opposer la sanction et l'éducation, et que l'une permet l'autre. Et précisément, c'est ça la vocation de ces unités judiciaires à priorité éducative, permettre un cadre juridique qui est celui du contrôle judiciaire, individualisé, c'est quelque chose que le garde des Sceaux a aussi porté dans d'autres circulaires et dans ses projets de loi, faire confiance au juge dans sa capacité à définir quelle est la juste sanction et le bon cadre judiciaire applicable aux mineurs. Donc ça, c'est le contrôle judiciaire. Et puis, cette dimension éducative, parce que, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais le constat dans les centres éducatifs fermés, c'était d'une part que le profil de mineurs n'était pas différent, alors qu'ils auraient dû marquer une gradation, et que par ailleurs, le temps éducatif, le temps de formation est plus faible que ce qui était prévu, annoncé, disons, dans le cahier des charges et dans la promesse de ces centres éducatifs fermés. Et par conséquent, dans cette nouvelle organisation, dans ces UJPE un peu technocratiques, mais qui ont quand même des termes qui sont forts, judiciaire, parce qu'il y a une décision judiciaire et à priorité éducative, eh bien, il y aura un professeur technique qui va être ajouté aux effectifs par rapport au foyer qui existe actuellement, pour justement renforcer la capacité à avoir des temps de formation et d'éducation et d'instruction des mineurs qui seront placés dans ces centres.
Alors là, on vient de parler de la philosophie, mais au-delà de la philosophie, il y a la question des moyens qu'on va consacrer à tout cela. C'est la deuxième partie de Quid Juris.
Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Thomas Le Sueur, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Thomas Le Sueur, Gérald Darmanin a évoqué, justement, on parlait des moyens, le recrutement en 2026 de 150 éducateurs, de professeurs, d'une soixantaine d'infirmiers formés aux enjeux de la protection judiciaire de la jeunesse. Or, on dit à l'inverse que, justement, dans les centres éducatifs fermés, le nombre d'heures de cours qui étaient réellement dispensées était très bas. On parlait de 10 heures seulement par semaine, contre 26 heures pour les enfants qui étaient placés en milieu ouvert. Vous nous dites, là, au micro de Quid Juris aujourd'hui, qu'avec ces nouvelles unités, ça va changer pour de bon, que dans ces nouvelles unités, on va mettre le paquet vraiment pour de bon sur l'éducation.
On s'en donne les moyens en ajoutant donc des effectifs de professeurs techniques qui seront à demeure dans ces unités. Et puis, dans les unités judiciaires à priorité éducative, les mineurs, en fonction de leur contrôle judiciaire, pourront aussi bénéficier de la scolarisation dans les établissements à proximité. C'est comme ça que ça fonctionne dans les foyers de la PJJ aujourd'hui. Et donc, c'est la somme de ces deux démarches, l'éducation et l'instruction en milieu d'éducation nationale, plus des professeurs techniques, qui doivent nous permettre d'augmenter le nombre d'heures d'enseignement.
Non, mais je vais prendre un exemple. Dans cette circulaire, à plusieurs reprises, il est fait référence au problème de la question mentale pour les jeunes. L'important, c'est donc, j'imagine, l'accès effectif aux soins, l'accompagnement régulier par des professionnels de la santé mentale, des médecins généralistes, des pédopsychiatres. Or, on sait tous qu'on en manque cruellement dans ce pays. Pourquoi, dès lors que ces unités sont créées, demain, il y aura tout à coup des générations spontanées d'accompagnements médicaux pour ces fameux jeunes en situation difficile, en situation de délinquance?
Alors, je confirme que les constats sont très clairs. La situation de santé de ces jeunes est bien moins bonne que la population générale. On a fait une étude là-dessus qui est absolument sans équivoque. Ce que nous allons faire dès la rentrée, c'est permettre à ces unités de bénéficier d'une infirmière à temps plein, ce qui aujourd'hui n'est pas toujours le cas dans les foyers de la PJJ.
Désormais, il y aura une infirmière par foyer.
Exactement. Donc c'est une des annonces, d'avoir 60 emplois d'infirmiers qui vont être ouverts dans ces unités. Et c'est comme ça que l'accès aux soins progresse. Les éducateurs ont toujours eu le soin, c'est le cas de le dire, de former les jeunes à l'hygiène élémentaire. Mais on peut aller plus loin avec des emplois d'infirmiers. Au-delà, effectivement, il faut faire appel aux médecins, à des conventions. Et le défi que vous pointez est tout à fait exact.
Non, mais
on va avoir du mal à avoir partout des pédopsychiatres.
Je vais vous dire la vérité. À ce micro, on reçoit très souvent des magistrats. Le dernier en date, c'était Rémi Yates, le procureur général près la Cour de cassation. Et il déplorait, mais il n'est pas le seul, la faiblesse des moyens accordés à la protection judiciaire de la jeunesse, le manque d'agents publics, le manque de suivi médical, de suivi éducatif. Et ils disent surtout, ces magistrats, qu'il y a très nombreuses décisions de justice qui sont appliquées avec beaucoup de retard et certaines qui ne sont pas appliquées du tout. Donc, au-delà de cette circulaire, le plus important, me semble-t-il, ce sont les moyens que l'on va mettre pour appliquer cette fameuse circulaire.
Alors, s'agissant de la justice des mineurs, je vais me limiter à ce sujet-là, puisque la question des délais de décision de justice, il est possible que M. le procureur général ait évoqué d'autres contentieux que celui des mineurs. Oui, il y a des endroits où nous avons des délais d'attente, de prise en charge, mais toutes les décisions sont exécutées, parfois avec un petit peu de latence.
Alors pardon, je lis dans une récente enquête de 2024, une grande partie des placements n'est pas exécutée. Il y a 3335 placements non exécutés. Alors là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est ça?
C'est ce que j'allais vous dire.
Mais on n'a pas du tout la même chose dans la partie judiciaire, c'est-à-dire pour les mineurs délinquants?
Non, on n'a pas.
Ils sont tous placés systématiquement et suivis systématiquement et soignés systématiquement.
Le système est un peu différent, puisque le juge ne prononce la décision de placement que si on lui a trouvé une place. Donc, il y a une garantie d'effectivité pour le placement.
Donc, en fait, on reproche, par exemple, au juge de ne pas mettre les gens en prison parce qu'il n'y a plus de place en prison. Et là, vous dites qu'il y a des magistrats qui ne placent que s'il y a une place pour les enfants.
Disons qu'il y a un travail qui est fait en lien avec les éducateurs pendant la préparation de l'audience pour trouver une place. Et on gère les priorités en fonction de la gravité des situations et en fonction, dans le dialogue avec les juges. Mais ça garantit que dans la foulée, là, je parle plus précisément des déferments, dans la foulée du déferment, on puisse placer le jeune. C'est très rare que ça n'arrive pas.
Vous vous souvenez de cet exemple, parce que c'est le dernier exemple en date qui a fait beaucoup causer. L'opinion publique s'est beaucoup intéressée à ça. Et pour cause, c'est le drame de Sanary, où un enfant de 14 ans a poignardé sa professeure. Ce mineur avait fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative. 4 mois après, il n'avait toujours pas eu son rendez-vous. Et si je ne dis pas de bêtises, il est passé à l'acte 2 jours avant d'avoir son rendez-vous. Mais là, vous allez me dire, c'est pareil, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on n'est pas dans le circuit judiciaire?
Si, on est dans le circuit judiciaire et la difficulté, le problème est tout à fait réel. Je ne le conteste pas.
Gérald Darmanin dit qu'il y a sans doute eu des failles, ce sont ces mots, dans la prise en charge de cet enfant.
Les failles, en tout cas, il y a une réelle difficulté, et je ne veux pas les incriminer, mais pour les conseils départementaux, face à la masse, près de 400 000 enfants à prendre en charge, dont 200 000 placés. Donc, confiés à des hébergements ou à des familles
placés,
d'accueil.
Ça veut dire des hébergements, des familles d'accueil, des tiers de confiance.
Exactement.
C'est ça,
Donc, c'est quand même considérable. Eh bien, les conseils départementaux, face à cette masse, et avec les difficultés de financement qui sont les leurs, effectivement, se retrouvent parfois à ne pas pouvoir mettre en œuvre, dans toute la célérité qu'on pourrait souhaiter au regard du fait que c'est une décision de justice, des mesures. Et c'est ce qui s'est passé vraisemblablement à Sanary. Voilà. Mais il y a une asymétrie qui est, c'est vrai, pas toujours facile à comprendre de l'extérieur, entre le civil et le pénal, puisque le pénal, la PJJ, prend en charge directement les jeunes par ses propres moyens, alors que les décisions de justice en matière de protection de l'enfance sont confiées au département.
Vous avez été très clair. Dans cette circulaire, il y a un autre aspect qui m'a intéressé, c'est la question des réseaux sociaux. Le ministre demande que les téléphones portables des mineurs placés dans ces nouvelles unités à priorité éducative soient totalement interdits dans les chambres, avec un usage limité dans les espaces collectifs. Et moi, c'est cette phrase qui m'a frappé. Le ministre dit, si les réseaux sociaux peuvent présenter un intérêt, ils exposent les mineurs au recrutement par des proxénètes, des trafiquants ou des prédicateurs, et présentent des risques élevés de dépendance numérique. Ça veut donc dire que dans ces nouvelles unités, il n'y aura pas de téléphone portable, pas d'accès aux réseaux sociaux, ou en tout cas de façon extrêmement limitée, c'est ça l'idée?
L'idée, c'est de dire que c'est un sujet qu'il faut affronter sous l'angle éducatif. C'est un défi pour toute la société, pour toute l'enfance, de gérer ces réseaux sociaux, et ça fait l'objet de beaucoup de débats.
Il y a un projet de loi par ailleurs, limiter l'usage des réseaux sociaux, interdire même au moins de 15 ans.
Et je voudrais profiter de cette question pour rendre hommage aux 9500 agents de la PJJ, et d'ailleurs aussi ceux qui travaillent dans le secteur associatif pour la PJJ, parce que ces réalités des réseaux sociaux qui sont des vecteurs de recrutement de la criminalité organisée et d'asservissement de cette jeunesse qui n'a pas les codes, qui n'a pas les protections, qui n'a pas les parents pour les mettre en garde, les accompagner face à ces menaces, eh bien, ces réseaux sociaux les prennent, les happent et les asservissent et les conduisent à faire des choses abominables.
Donc ça veut dire concrètement que ces enfants, quand ils vont rentrer dans une unité comme celle-là, on va leur prendre leur téléphone portable et on leur redonnera aux heures où ils auront l'autorisation de les utiliser.
Le signal qui est donné, c'est que ça doit être un sujet d'organisation, de méthode professionnelle dans chacun des foyers de la PJJ, avec des règles qui doivent être précisées dans le règlement intérieur. Les grands axes sont fixés dans la circulaire. Les chambres, c'est-à-dire les espaces plus intimes dans lesquels les jeunes se trouvent le soir, hein, une chambre PJJ, d'un foyer PJJ, c'est pas un endroit où on va quand on veut, comme on veut. Et le soir, ils vont dans leur chambre. Et là, on va dire que les portables sont interdits. Alors, c'est comme tous les interdits. On sait très bien qu'il peut y avoir des endroits où on trouve des astuces. Ils sont très, très intelligents, ces jeunes. Donc, je vous dis pas qu'on trouvera jamais un portable dans une chambre. Ce serait absurde.
Ça ressemble au projet de loi sur les réseaux sociaux où désormais les téléphones portables seront interdits au lycée, dans les lycées.
Oui.
Mais qu'en même temps, l'organisation de cette interdiction sera laissée à la liberté de chaque établissement scolaire. Au fond, c'est ce que vous me dites. C'est interdit, ce que dit la circulaire, mais au fond, chaque établissement organisera cette interdiction comme bon lui semble.
Comme bon lui semble, au mieux, j'ai envie de dire. Parce que ça fait partie de l'action éducative et de l'action professionnelle. Vous imaginez bien que pour des jeunes qui sont placés dans une unité comme une UJPE ou aujourd'hui un CEF, d'abord...
En soi, c'est centre d'éducation fermée.
Centre d'éducation fermée, pardon. C'est une sanction. C'est une sanction très forte. Il préférerait rentrer chez lui, faire autre chose. Non, parce que parfois, on a l'impression que c'est pas grand chose. Mais si, c'est une lourde sanction et c'est difficile à vivre. Quand en plus, on lui dit, ton téléphone, on va te le prendre, il faut accompagner ça de façon éducative et expliquer pourquoi on le prend, que c'est une protection, qu'il y aura des moments où il pourra l'utiliser dans un cadre qui soit surveillé dans son intérêt pour le protéger et pour le faire avancer dans sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans une démarche éducative, sinon ça ne fonctionnera pas.
Et le ministre a également demandé, alors là j'avoue que ça m'a étonné, des mesures de sécurisation pour ces lieux de placement. Parce qu'il dit en fait, il faut pas que leur foyer fasse l'objet de prédation de la part des réseaux de narcotrafic et de proxémétisme. Donc ça veut dire, si je lis bien ce qu'il y a dans cette circulaire, qu'aujourd'hui dans les foyers où ces mineurs sont placés, il y a potentiellement des réseaux criminels qui viennent recruter ces mineurs alors qu'ils sont placés sous main de justice ?
Pas forcément les recruter.
Là, je vous pose la question parce que j'avoue quand j'ai lu ça, je me mets à la place un petit peu de ceux qui nous écoutent. Ils se disent, mais a priori, un jeune qui est placé sous main de justice dans un foyer, c'est un lieu où il est protégé, les réseaux criminels n'ont rien à faire là.
Ah, ils n'ont rien à faire là, mais parfois ils viennent rechercher les jeunes qui ont été placés dans un foyer parce que ils veulent lui confier une mission, une action, et parce qu'ils asservissent ces jeunes. Donc oui, parfois ils essayent de venir les rechercher. Absolument.
Et donc ça veut dire que ces lieux seront désormais sécurisés. Sécurisés comment ? Avec de la police, des caméras comment ? Il y aura des protocoles anti-fugue, par exemple ?
Alors, c'est d'abord une protection face à l'extérieur, face au risque d'une intrusion, en effet. Et donc, c'est plutôt des systèmes de vidéoprotection, de protocoles, effectivement, avec les forces de police et de gendarmerie pour avoir une intervention rapide en cas de menace extérieure. Mais malheureusement, la réalité de la criminalité organisée, c'est que ils asservissent ces enfants, ils les considèrent comme une marchandise et parfois, ils viennent récupérer, pardon de cette expression du coup affreuse, leurs marchandises dans nos foyers.
Mais il n'y aura pas un policier ou des policiers devant chaque foyer.
C'est pas ce qui est prévu parce que ce serait pas adapté et parce que ce sont des lieux éducatifs. Mais il faut quand même qu'on ait des protocoles de protection de nos agents et de nos jeunes.
Thomas Le Sueur, deux sujets encore que je voulais évoquer avec vous dans le débat public et politique. Surtout, on parle beaucoup du volet répressif de la justice des mineurs. On en parle d'ailleurs plus souvent que du volet éducatif. C'est pour ça que je suis très heureux que vous soyez venu à ce micro pour faire la pédagogie de ce volet-là. On entend pas mal de responsables publics qui veulent revenir sur l'excuse de minorité, imposer de courtes peines de prison dès le premier délit. Et moi, je vais prendre un exemple d'actualité à nouveau. C'est celui de Pepito, cet ado de 14 ans qui a abattu un chauffeur VTC en allant exécuter un contrat à Marseille. C'était en 2024. Il est mineur. Il était mineur au moment des faits, 14 ans. Il vient d'écoper de 17 ans de prison. C'est bien la preuve que l'excuse de minorité ne signifie pas du tout qu'on excuse les mineurs, juste qu'on les condamne moins que des majeurs, ce que tous les traités internationaux nous obligent à faire. Donc, pourquoi revenir sur cette excuse de minorité ?
Effectivement, ça fait partie des principes fondateurs de considérer que la peine encourue doit être adaptée à la minorité et à l'âge.
Et donc, en gros, elle est divisée par deux pour un mineur.
Exactement. Et le débat autour de cette question est un débat éminemment politique qui m'appartient pas de trancher. Simplement, il existe aujourd'hui dans le code une règle qui est que, par principe, la peine encourue est divisée par deux. C'était le cas dans l'affaire que vous visez, où en fait la peine pour un adulte...
Il risquait la perpétuité. Comme il est mineur, le maximum c'est 20 ans,
exactement.
Et les juges ont décidé 17.
Exactement, donc ça a bien été mis en œuvre. Et il y a déjà tout un tas de cas de figure où cette règle de division par deux du quantum encouru de peine peut être écartée, et donc le quantum des adultes peut être appliqué. Voilà. Donc le cadre existe déjà, il dispose déjà de souplesse. Il y a un débat politique pour agrandir ces souplesses, augmenter ces souplesses.
C'est intéressant ce que vous me dites, parce que vous me dites que le débat sur l'excuse de minorité est d'abord et avant tout un débat politique, mais pas forcément un débat sur l'efficacité, l'efficience de la peine pour se donner un outil de plus pour lutter contre la délinquance des mineurs. C'est plus un sujet politique qu'en réalité un sujet d'accompagnement des mineurs délinquants.
Ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord le sujet effectivement des autorités politiques et puis des juges dans leurs décisions et dans leur capacité à pouvoir prendre
les juges appliquent la loi.
Oui, mais
c'est le législateur qui la vote.
Oui, mais dans leur appréciation de la mise en œuvre de la loi et des faits, s'ils se sentent entravés dans leur capacité à avoir des sanctions adaptées à la gravité des faits, c'est plus de leur champ professionnel que cela relève que du mien, où on prend, nous, à la PJJ, la sanction telle qu'elle a été définie par le juge. Et on la met en œuvre.
Encore un dernier point, les mineurs non accompagnés. Je voudrais qu'on en dise un mot, parce qu'au sein de votre direction de la protection judiciaire de la jeunesse, il y a une mission, mineurs non accompagnés, qui coordonne le dispositif national de mise à l'abri. Bon, je vous apprends rien en vous disant que les communes, les services de police se plaignent de ce phénomène. Ils disent qu'ils sont débordés à certains endroits par ces mineurs non accompagnés, de plus en plus nombreux, souvent pris en main par des réseaux criminels. On le disait, ils sont autant délinquants que victimes. C'est quoi précisément votre rôle sur ce terrain-là, les mineurs non accompagnés ?
Alors peut-être deux éléments importants de cadrage avant de vous répondre. D'abord, les mineurs non accompagnés sont de moins en moins nombreux depuis 2022. Ils étaient moins de 10 000 l'an dernier, alors qu'on a connu des vagues de plusieurs dizaines de milliers. Donc la difficulté est
moins... Moins de 10 000 en 2025.
Oui, donc la difficulté est moins aiguë aujourd'hui qu'hier, et sans préjuger de l'avenir. Et puis, ces mineurs non accompagnés, ce sont des enfants à protéger. C'est-à-dire que, dans ma dichotomie civile-pénale, ils relèvent du civil. Vous avez évoqué les réseaux criminels qui parfois sont des réseaux de passeurs, mais c'est pas parce que les réseaux sont criminels que les enfants sont délinquants. Et en réalité, il y a très peu de délinquance chez ces mineurs non accompagnés. Très peu de délinquance. Donc il y en a peu qui arrivent à la PJJ en étant MNA. En revanche, on nous a confié une mission de pilotage et de régulation de la répartition de ces mineurs non accompagnés sur le territoire, parce que comme ils arrivent par des flux, par des ports, par des aéroports, etc., il y avait des départements qui avaient énormément de mineurs non accompagnés et d'autres qui n'en avaient pas du tout. Et donc, il a été mis en place un mécanisme de régulation piloté par la PJJ qui répartit ces mineurs sur le territoire. Voilà, c'est ça le rôle qu'a la PJJ, mais c'est pas du tout lié au fait que ces mineurs seraient massivement délinquants, comme peut-être parfois certains l'imaginent.
J'ai gardé pour la dernière question le sujet le plus difficile. Il y a une façon extrêmement simple de voir le travail que fait la protection judiciaire de la jeunesse. Bah, c'est le chiffre de récidive chez les mineurs qui sont passés entre les mains de la PJJ. On le connaît, ce chiffre de récidive ?
Ce que je peux vous dire, et c'est un chiffre qui est méconnu et je suis heureux de pouvoir le présenter, c'est que dans 70% des cas, les mineurs qui passent par la PJJ, on ne les revoit pas. Ils n'y reviennent pas. Alors, c'est pas parce qu'on s'est mal occupé d'eux et qu'ils veulent plus nous voir, c'est au contraire parce que, ils ont bien évolué, ils ont repris le droit chemin.
Donc, moi, je vois le verre à moitié vide et vous à moitié plein. Et les 30 autres pourcents, ça veut dire que eux, vous allez les revoir, donc qu'ils récidivent, donc qu'il faut approfondir le travail qui a été fait.
Exactement. Et le code est bien prévu comme cela. C'est-à-dire qu'il y a, quand il y a un parcours de délinquance avec plusieurs passages à l'acte et souvent une aggravation du dossier du mineur, eh bien, les sanctions s'accroissent. Et c'était la logique d'échelle de peine que j'évoquais et de sanctions que j'évoquais précédemment. Les premières mesures sont des mesures strictement éducatives. Et puis, parfois, on va jusqu'au placement. Et donc, on nous le confie H24 pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et pour les faits les plus graves, ça peut aller jusqu'à la détention, comme on l'a dit tout à l'heure.
Vous me confirmez, et ça peut paraître contre-intuitif, que le nombre de mineurs délinquants a plutôt tendance à baisser sur une période de 10 ans, mais qu'en revanche, l'âge moyen pour les faits les plus graves commis, lui, baisse. Les auteurs sont de plus en plus jeunes, et les faits de plus en plus graves, c'est bien ça l'idée ?
C'est à peu près comme ça qu'on peut résumer la statistique judiciaire.
Et donc, ça veut dire que vous voyez sans doute des enfants beaucoup plus jeunes que les années précédentes dans les institutions que vous dirigez ?
Beaucoup plus jeunes, ce serait beaucoup dire. Il y a une tendance un peu baissière, mais il y a des actes, et l'affaire pour laquelle il y a eu une condamnation à 17 ans de réclusion que vous citiez tout à l'heure en est un exemple vraiment emblématique. Il y a des faits et des actes qui vraiment frappe le grand public, mais aussi les professionnels de la PJJ par la jeunesse de leur auteur. C'est pas pour autant que toute la jeunesse de 13 à 15 ans a basculé dans la délinquance. Ça crée un effet de loupe, peut-être, dont il faut garder un peu de distance.
Merci infiniment, Thomas Le Sueur, d'être venu nous voir dans Quid Juris. Quid Juris, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ce podcast, Quid Juris, est disponible sur la plateforme de notre partenaire BFM, sur toutes les plateformes de streaming et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 99e numéro de Quid Juris. Bonne semaine à tous.